Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Marianne durant la case.
Thierry de Montbrial, bonjour.
Bonjour.
Quelques mots pour vous présenter. Vous êtes le fondateur et le directeur de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, think tank reconnu, et vous êtes également professeur émérite au Conservatoire des arts et métiers, et vous avez présidé pendant 18 ans le département des sciences économiques de l'École polytechnique. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1992 et vous venez régulièrement à Canal Academy présenter la revue phare de l'IFRI, Ramsès, rapport annuel de l'Institut, une sorte de bilan de l'année écoulée sur l'état des relations internationales. Et je signale que vous venez également de publier en 2012 « Journal de Russie ». 1977-2011, c'est aux éditions du Rocher. J'invite donc nos auditeurs à vous écouter sur tous ces sujets, à vous écouter en streaming ou en téléchargeant vos interviews, auxquelles on a toujours accès à partir de notre site. Dans « L'action et le système du monde », l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, vous lancez les bases d'une science de l'action qui englobe trois domaines complémentaires, l'économie, la stratégie, les relations internationales. Thierry de Montbrial, on comprend dès l'ouverture du livre que l'étude des relations internationales ne peut pas échapper à la pluridisciplinarité. Quel est donc le cadre pluridisciplinaire que vous avez choisi, que vous avez créé pour juger justement d'une compréhension au plus juste des relations internationales?
Ce livre, c'est la quatrième édition, puisque la première édition, c'est publié aux Presses universitaires de France, je le précise, et la première édition date d'il y a 10 ans maintenant, ça a été republié plusieurs fois, traduit dans de nombreuses langues. Il y a une traduction d'ailleurs anglaise originale qui va, quelques compléments qui va sortir aussi à la fin de cette année. Et ce livre, c'est une tentative de ce que j'appelle, après d'autres, mais dans un sens un peu différent, la praxéologie. Praxéologie veut dire science de l'action, hein. Praxis, logos, discours sur l'action. Ayant pratiqué, en effet, beaucoup étudié dans ma vie les disciplines dont vous parlez, notamment la science économique et les relations internationales, je pense qu'il peut y avoir un cadre unificateur, un cadre commun. Alors, ce cadre commun repose sur quelques principes relativement simples. Le premier, c'est le concept d'unité active. L'unité active, ce que j'appelle unité active, sont des groupes humains qui sont organisés et structurés autour de deux grandes caractéristiques qui sont la culture. La culture, c'est le ciment du groupe. Enfin, c'est un concept sociologique, bien sûr, mais ciment du groupe. Et d'autre part, une organisation, je mets un O majuscule, le gouvernement dans le cas d'un État, c'est, ou d'une entreprise, d'ailleurs le gouvernement d'une entreprise, c'est le sous-ensemble de ce groupe qui prend les décisions pour maintenir la cohésion du groupe, pour les intérêts du groupe, qui définit d'ailleurs les intérêts du groupe, soit vis-à-vis de l'intérieur, soit vis-à-vis de l'extérieur. Alors à partir de cette notion, on construit comme une espèce de mécano, si vous voulez, un ensemble de concepts qui permet d'unifier les différentes disciplines.
Comment vous définiriez un système international ou, disons, quelle différence vous faites entre le monde des relations internationales, un système international, et vous préférez l'expression de système du monde? Est-ce que vous pourriez nous préciser ce que c'est qu'un système international ou un système de relations?
D'abord, pour les connaisseurs, pour les gens qui ont un petit peu de culture scientifique, sur les systèmes du monde, l'action, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est agir. Mmh. Bon. Système du monde, c'est un clin d'œil, en réalité, à toutes les origines de la science des astres, de l'astronomie. C'était un terme couramment utilisé, notamment au XVIe, au XVIIe siècle et plus tard. En fait, vous avez raison, le mot compliqué, c'est le mot système. Le mot système suppose que l'on définisse un certain nombre d'éléments et dont on précise les liens d'association ou d'opposition qui se tissent entre ces différents éléments et un ensemble dont on a précisé les différents éléments et les liens qui les unissent, c'est ce qu'on appelle donc les niveaux précis d'interdépendance, c'est ce qu'on appelle un système. Alors, l'un des points d'ailleurs de mon livre, c'est que l'expression système international ne peut de toute façon être utilisée que de façon métaphorique, car nul ne peut et ne pourra jamais préciser en détail ce que c'est que le système international. Alors, si vous parlez, mettons en astronomie par exemple, du système solaire, vous savez très exactement de quoi vous parlez. Vous avez la Terre et vous avez les planètes qui tournent autour. Alors bien entendu, il y a d'autres corps célestes qui gravitent autour du Soleil, mais on les néglige généralement quand on fait l'analyse du système solaire. Dans le cas du système international, la simple description des acteurs, des unités actives, pour reprendre ce vocabulaire, à prendre en compte, et de leurs relations, est un travail inépuisable et infini. Et c'est pourquoi j'ai toute une série de concepts intermédiaires. Ces concepts intermédiaires passent par la notion de ce qu'on appelle un problème praxéologique. Donc praxéologie, encore une fois, c'est la science de l'action, logos sur la praxis. Et un problème praxéologique suppose qu'on a défini très clairement à propos d'une question déterminée, par exemple la navigation sur le Danube ou la situation en Afghanistan, par exemple, pour prendre deux exemples tout à fait différents, ou encore le système de l'euro, c'est l'eurozone, ça suppose qu'on définisse très précisément quelles sont les unités actives impliquées dans ce problème et quels sont les liens entre ces unités actives. Mais vous ne pouvez pas définir un grand système international qui comprendrait toutes les liaisons de tous les types possibles. Alors, c'est ce genre de choses que j'analyse en détail. Ça peut paraître un peu abstrait, mais d'un autre côté, c'est extrêmement utile parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'acteurs qui interfèrent dans les relations internationales, certains publics et d'autres privés, qu'il faut une bonne méthode pour pouvoir les analyser.
On parlait de méthode, mais justement, comment ces unités actives dont vous parlez, qui peuvent être très très différentes, est-ce qu'il y a une typologie? Comment des unités politiques, vous parlez aussi d'unités politiques, mais comment des unités politiques dont les cultures et les valeurs sont différentes peuvent au moins partiellement s'entendre au niveau international, puisque le but quand même c'est d'arriver à la paix ou à la coopération pour la prospérité. C'est oui, le c'est but le de but. Toutes
c'est
ces
le but
constructions.
Que vous définissez. Et... Mais vous avez évidemment, surtout dans l'histoire, bien des pays ou des unités politiques qui ont eu d'autres buts. Alors précisément, il faut d'abord une typologie. La première distinction importante, c'est celle entre unité active. Unité active, c'est un concept extrêmement général, et unité politique, et j'appelle unité politique, une unité active qui se considère comme souveraine. Alors, ça comprend les unités actives qui sont reconnues par les autres aussi comme souveraines, donc les États, ça c'est une question de droit international, mais mon appréhension des choses permet d'inclure aussi des unités politiques qui ne sont pas des États. Par exemple, si vous prenez certains groupes terroristes comme Al-Qaïda, eh bien pour moi, Al-Qaïda est une unité politique, parce qu'elle se considère comme souveraine. Pour dire les choses, là encore, de manière un peu forcée, Al-Qaïda ne considère comme supérieure à elle que Dieu, dans ce système particulier. Donc, les unités politiques jouent un rôle particulièrement important.
Qui n'est pas forcément lié au territoire, donc.
Alors, qui n'est pas forcément lié au territoire, mais qui peut l'être. Par exemple, dans le cas d'Al-Qaïda, il y a certainement eu, en tout cas chez un homme comme Oussama Ben Laden, l'idée, évidemment un fantasme, de rétablir quelque chose comme un califat sur l'ensemble des pays arabes ou tout au moins sunnites.
Dans ces concepts de base, entre unité active et unité politique, quelle est votre démarche?
Alors d'abord, pour reprendre aussi ce que vous disiez juste avant, il est certain qu'à partir du moment où un certain nombre d'unités actives sont en interaction, sur une question déterminée, elles ont des intérêts partiellement conflictuels et partiellement coopératifs. Et là, on retombe sur toutes les catégories classiques que j'analyse évidemment en détail, puisque la forme extrême du conflit, c'est la guerre, et donc la violence. Et j'analyse évidemment très en détail dans le livre tout ce qui concerne la question de la guerre et de la paix, et de la guerre particulièrement. Et d'ailleurs, je rappelle que traditionnellement, de grands penseurs comme Raymond Aron mettaient la guerre au centre de la problématique des relations internationales. Mais il y a aussi les aspects coopératifs. Et donc, les gens comme moi qui cherchent plutôt à privilégier la paix par rapport à la guerre vont rechercher comment faire pour, dans toute la mesure du possible, accroître, favoriser les actions de coopération et trouver les méthodes, les modes de résolution des conflits qui évitent justement la guerre. Et derrière tout ça, évidemment, on tombe sur le problème essentiel du monde contemporain, du monde extrêmement interdépendant qu'est le monde contemporain, qui est la question de la gouvernance.
Alors ça, c'est justement une idée sur laquelle vous revenez beaucoup ces derniers temps, enfin ces dernières années, même dans l'édition présente. La gouvernance vous paraît un mode à développer pour justement combattre notre vision peut-être primaire du catastrophisme ambiant.
Il est certain qu'on peut comprendre ça très aisément. Quand vous avez un système, puisque nous avons défini la notion de système, dont les parties sont de plus en plus interdépendantes, s'il n'y a pas de mode de régulation, le système va évoluer vers une fragmentation ou vers un chaos. Et dans le cas des relations internationales, la fragmentation, c'est le retour des blocs. Le chaos, c'est une sorte de guerre généralisée, larvée, où chacun se trouve dans son coin. C'est l'anarchie, si vous voulez. Et on voit bien que les deux issues sont également détestables. Peut-être d'ailleurs que l'anarchie est encore pire, potentiellement, que la fragmentation en bloc. Et donc, la gouvernance, ça n'est autre que la régulation, finalement, du système, d'un système interdépendant. C'est comment s'organiser de façon à éviter ces développements catastrophiques. Alors, le mot catastrophique, il est à l'intensité émotionnelle qu'on peut lui donner dépend des circonstances, en particulier de ceux qui entendent ce mot. Mais on voit bien que aujourd'hui, par exemple, l'éclatement de l'euro, le début de la décomposition de l'Union européenne,
cette vision de l'immédiat,
une rupture entre la Chine et le reste du monde, tout cela, on sent bien que ça pourrait avoir à terme des conséquences absolument catastrophiques. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a 100 ans exactement, nous étions en 1912, c'est-à-dire nous étions à 2 ans du début de la Première Guerre mondiale, et personne n'imaginait qu'un tel développement puisse se produire. Ce que je veux dire par là, c'est que si on y prend garde, on peut avoir des évolutions qui deviennent catastrophiques, non seulement avec un petit C, mais avec un grand C.
Le développement durable, c'est un concept que vous intégrez dans les relations internationales aujourd'hui ?
Oui, on est obligé de l'intégrer parce que la rapidité des évolutions, l'importance de ce qu'on appelle les effets externes négatifs, c'est un terme un peu technique, mais les effets externes, si vous prenez dans un système, les effets externes, c'est ce qu'un individu, disons un élément du système, fait et a comme conséquence sur les autres. Bon, les effets externes parfois sont positifs, très souvent ils sont négatifs. Et en matière du climat, par exemple, la pollution, les effets externes sont très souvent négatifs. Par conséquent, dans une période d'accélération, encore une fois, des interdépendances, derrière tout ça, d'ailleurs, la mutation technologique, l'accélération technologique joue un rôle absolument essentiel. Dans une telle période, il faut maîtriser ces effets externes négatifs, faute de quoi on peut se retrouver là aussi très vite dans une situation absolument intolérable. Alors il y a une trentaine d'années, au moment du sommet de Rio, lorsque les questions de ce type ont commencé à être débattues, ça paraissait un peu lointain. Mais aujourd'hui, l'idée de la planète finie, l'idée que certaines actions humaines, donc que certaines unités actives puissent produire des effets négatifs durables sur l'ensemble de la planète, tout cela est aujourd'hui parfaitement intégré. Donc, la question comment doit-on s'organiser pour que la planète reste vivable durablement, c'est-à-dire pour non seulement les toutes prochaines générations, mais pour les dizaines, voire centaines de générations à venir, c'est devenu une question absolument fondamentale.
Un petit peu comme le développement durable est devenu une question fondamentale, est-ce que l'affirmation d'une justice pénale internationale est-elle aussi, à la même échelle, un élément important à prendre en compte ?
Alors, la question de la justice pénale internationale est une question très difficile parce que la justice dure, c'est traditionnellement, depuis toujours, l'apanage des États. Et on voit bien que la Cour pénale internationale, par exemple, aujourd'hui, le traité créant la Cour pénale internationale n'a même pas été ratifié par les plus grands États de la planète, comme les États-Unis ou comme la Chine. Donc,
comment on peut l'expliquer ?
Parce que, vous savez, les résistances sont extrêmement fortes. L'histoire, la tradition, la notion d'indépendance. Et un pays comme les États-Unis qui intervient partout n'a absolument pas envie, ne peut même pas imaginer que telle ou telle de ses personnalités soit impliquée par un tribunal extérieur aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis qui sont encore la puissance dominante ont même une pratique qui est d'ailleurs tout à fait extraordinaire quand on y réfléchit, d'extraterritorialité, c'est-à-dire d'imposition de ses propres lois à l'extérieur de son propre territoire. Donc tout ça, c'est une question de culture, là aussi, pour reprendre ma terminologie de base. Et du reste, je pense que même un pays comme la France qui a signé ce traité ne serait pas particulièrement heureux si tel ou tel de ses compatriotes connus se trouvait impliqué dans des actions de ce type, si l'opinion publique considérait que c'était pour de mauvaises raisons. Donc on touche là à des choses extrêmement sensibles qui sont liées à l'histoire des peuples. Mais je crois quand même qu'on va dans ce sens-là. Mais ça va prendre du temps. Je pense que le concept de justice pénale internationale mettra probablement au moins 2 ou 3 générations pour s'imposer.
Il y a toujours une grande différence entre la théorie des analystes en relations internationales et la pratique.
Si vous voulez, pour moi qui ai beaucoup pratiqué la théorie et qui pratique beaucoup la pratique depuis des décennies, le travail que j'ai fait dans ce livre, c'est justement pour que la théorie soit utile. À vrai dire, si je me suis lancé dans cet énorme travail, car c'est un énorme travail, il y a fort longtemps maintenant, c'est parce que je n'étais pas tout à fait satisfait des théories que je connaissais. Et que l'écart, en effet, me paraissait trop grand. Et si j'ai voulu me lancer dans ma propre construction théorique, qui d'ailleurs emprunte évidemment beaucoup aux autres, ça va de soi, c'est parce que j'ai voulu me forger ma propre boîte à outils dans laquelle je serais à l'aise.
Et l'ayant
forgée, j'essaie de la partager avec les autres.
L'objet et le but de
exactement.
Ce livre. Une boîte à outils où l'action est au cœur du système.
Oui, l'action est au cœur du système.
C'est votre focus pour analyser.
Oui, vous savez, moi, personnellement,
les relations internationales,
la relation internationale ou pas, d'ailleurs. Parce que si vous prenez l'activité économique, c'est l'action. Un entrepreneur est un homme d'action. L'économie, c'est bourré, si j'ose dire, d'action.
Mais c'était le chaînon manquant pour vous, pour réduire cet écart entre théorie et...
Non, le chaînon manquant, c'était éthique. De trouver un cadre, d'abord, qui soit suffisamment flexible pour permettre d'analyser les situations les plus variées, une situation de, prenez le marché du pétrole ou le marché des technologies de l'information, mais aussi des situations comme les conflits classiques, des situations comme la décomposition violente du monde arabe, enfin ce qu'on appelle le printemps arabe, ou Al-Qaïda, avoir un cadre unificateur qui permette de traiter tous ces problèmes qui apparemment sont très différents les uns des autres, mais qui ont quand même beaucoup en commun, n'est-ce pas, de les traiter dans un cadre, encore une fois, unifié. Et l'action, qui dit action dans les situations complexes, c'est-à-dire dès que vous avez, encore une fois, des groupes humains, les unités actives, c'est pas seulement des individus. Déjà, pour les individus, prendre des décisions, ce n'est pas facile. Pour des groupes humains, c'est beaucoup plus difficile. Donc, derrière tout ça, il y a la réflexion sur qu'est-ce que c'est que la stratégie, qu'est-ce que c'est que les objectifs, qu'est-ce qu'on les atteint, aussi des... Pour vous donner un exemple de question qui vient immédiatement quand on réfléchit à ces sujets, c'est que toute unité active, prenez quand vous vous lancez dans un projet quelconque, qui que vous soyez, mais un entrepreneur ou qui vous voulez, eh bien immédiatement, vous avez ce que j'appelle les unités actives contravariantes qui naissent, c'est-à-dire vous avez apparition d'unités actives qui naissent et qui se forment pour vous bloquer. N'est-ce pas ? Et donc, ça fait partie, ce genre de choses aussi, de la dynamique de l'action, et ça fait partie du cadre général que j'essaye d'analyser. Alors, cet exemple-là vous montre d'ailleurs qu'il n'y a pas seulement les systèmes ou les sciences physiques ou mathématiques qui peuvent inspirer ce genre de cadre, mais aussi la biologie, par exemple.
La biologie, et puis la stratégie, c'est aussi la base de la géopolitique, quand même.
La stratégie, c'est un élément de la géopolitique, mais encore une fois, pas seulement de la géopolitique. De l'économie aussi. Dans les mondes de l'entreprise, la création d'une entreprise, le développement d'une entreprise, ça suppose des stratégies. La stratégie, c'est l'art ou la science, je m'explique aussi longuement là-dessus, pour une unité active de se fixer des objectifs et de les atteindre, et pour les atteindre, surmonter les obstacles qui s'y opposent, notamment les obstacles qui viennent des autres, d'autres unités actives, celles que j'ai appelées à l'instant contravariante, et de faire tout cela avec un minimum de moyens, c'est-à-dire avec un principe d'économie, ce que le maréchal Foch appelait l'économie des forces. Le maréchal Foch ramenait toute la stratégie à deux principes de base, c'était l'économie des forces et la liberté de mouvement. Économie des forces et liberté de mouvement. Alors, c'est très intéressant d'ailleurs d'approfondir ce genre de sujet, parce que on s'aperçoit qu'on en arrive assez facilement à des constructions assez abstraites, et là aussi, n'est-ce pas, on sait bien que plus les formulations sont abstraites dans tous les domaines, plus l'application, c'est-à-dire l'utilisation de ces concepts, est difficile. Vous trouvez ça dans les sciences physiques de la même manière.
La nature du système international peut-elle changer ? Est-ce que la décennie actuelle, depuis 2003, date à laquelle vous avez commencé cet ouvrage, aujourd'hui 2012, est-ce que vous pensez qu'on a basculé d'un système à un autre ? Vous avez des coupures chronologiques qui sont particulières pour faire démarrer le 21e siècle.
Pour moi, n'est-ce pas, le 21e siècle, il démarre bien en amont, il démarre à la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire 1989-91. Et là aussi, j'explique longuement là-dessus, donc je ne vais pas y revenir. Mais bien entendu, il y a beaucoup de choses qui changent. Par exemple, du simple fait justement de cette interdépendance croissante, les unités actives de base ou les unités politiques, sauf exception, sont elles-mêmes de plus en plus internationalisées. Donc, elles ont elles-mêmes des extensions mondiales. Donc, la perception des liens, d'abord les liens objectifs entre les différentes unités actives ou politiques, changent de nature. Et en plus, la perception de ces liens elle-même évolue. Par conséquent, le rôle, par exemple, des grandes réunions de ce qu'on appelle aujourd'hui le G8, G20, etc., c'est des choses qui n'existaient pas il y a une trentaine d'années. Et quand Giscard, par exemple, le président Giscard d'Estaing a introduit ce qu'on appelle aujourd'hui le G5, qui est devenu le G7, puis le G8, on était effectivement dans un monde extrêmement différent. Donc, bien sûr, les modalités du système international évoluent, mais justement, la batterie conceptuelle que j'ai essayé de mettre en place dans cet ouvrage, elle est permanente, c'est-à-dire que elle permet, à mon avis, d'étudier et d'analyser aussi bien le monde tel qu'il existait, mettons, dans les années 1950, qu'aujourd'hui, ou même au Moyen-Âge.
Thierry de Montbrial, merci. Je rappelle la publication de « L'action et le système du monde ». C'est un ouvrage, une nouvelle édition qui a été augmentée, en particulier au niveau des annexes.
Les annexes 4 et 5. Qui sont
c'est les dernières. C'est la géopolitique entre guerre et paix.
C'est ça, la géopolitique entre guerre et paix. Et les fondements de la World Policy Conference, qui sont justement une sorte de...
Ce que vous veniez d'aborder.
D'exercice d'application.
Voilà, juste à la fin de cet entretien. C'est pour ça que je me permettais de le dire. Merci, monsieur.
Merci à vous.